Donc oui, le gouvernement du Québec a annoncé aujourd'hui qu'il ne portera pas la cause en appel dans la décision de la Cour supérieure qui a invalidé des pans entiers des lois québécoises et fédérales sur l'aide médicale à mourir. Ça rapproche donc les personnes qui sont gravement malades, mais pas sur le point de mourir, d'avoir accès à l'aide médicale à mourir. Et quand la décision est tombée aujourd'hui, quand j'ai appris ça, j'ai pensé à plein de personnes dont j'ai raconté les histoires, ces dernières années, là, des gens qui n'ont pas eu accès à l'aide médicale. Parmi elles, en 2016, Mme Louise Laplante, 66 ans, atteinte de sclérose en plaques, paralysée, ne fait plus bouger qu'une seule main. Elle a réclamé l'aide médicale à mourir. Et la suite, c'est Léa Simard, sa fille, une de ses deux filles, qui va nous la raconter. Elle est en studio. Léa Simard, bonjour.
Bonjour.
D'abord, parlez-nous de votre mère, Louise Laplante.
Bon, alors Louise, ma mère, a été diagnostiquée après de longues recherches parce qu'elle savait pas trop de quoi elle était atteinte. Vers 2001, elle a eu son diagnostic. Et puis, on peut dire que pendant les 15 ans qui ont suivi, ça a été une chute tranquille, des fois par plateau, des fois par grande baisse d'énergie jusqu'en 2000.
Elle perdait son autonomie.
Elle perdait complètement son autonomie. Ça c'est allé petit à petit, c'est-à-dire qu'au début, elle avait besoin d'une canne, ensuite deux cannes. Malheureusement, elle a eu une chute qui l'a fait aussi, qui lui a fracturé la clavicule et la hanche. Donc, elle s'est retrouvée en chaise roulante et puis finalement n'a jamais plus remarché ensuite.
Et en 2016, je crois que c'est juste de dire que votre mère, Louise Laplante, était prisonnière de son corps.
Complètement. Comme vous disiez, à la fin, elle avait à peu près juste un bras ou une main et en plus la gauche, donc pas sa bonne main, pour s'alimenter ou pour faire tout ce qu'elle devait faire dans sa journée.
Et c'est à peu près à ce moment-là que nos gouvernements ont adopté des lois sur l'aide médicale à mourir. Ça, est-ce que c'est une option qui... une option que votre mère considérait?
Oui, complètement. On suivait le dossier un peu de loin, comme tout le monde. On entendait parler ici et là. Et puis, on s'est dit, ah, ben coudonc, peut-être que ça pourrait s'appliquer. Peut-être que ma mère pourrait être éligible. Elle avait, à ce moment-là, un médecin de famille assez ouvert d'esprit avec qui la communication se faisait très bien. Par contre, elle n'habitait plus dans le même quartier. Elle venait de déménager, donc... elle avait un lien encore avec elle, mais elle ne la traitait plus. Mmh. On est quand même allé la consulter pour savoir ce qu'elle en pensait. Puis elle nous a dit, automatiquement, « Ah oui, effectivement, je crois que votre mère serait éligible. Je vais en parler à d'autres médecins, d'autres collègues. » Puis on sentait... ensuite, que c'était un sujet quand même assez tabou.
Oui. Les médecins ne savaient pas trop au début comment gérer ça.
Vraiment.
C'était quoi les critères réels, surtout pour des personnes comme votre mère?
Tout à fait. C'était comme apprendre avec des pincettes. C'était délicat. Plusieurs ne voulaient pas s'en mêler, en fait, tout simplement. Et puis, bon, c'est ça. Rapidement, elle nous a dit, ah non, malheureusement, j'étais pas mal certaine que ça se pouvait, mais non, vous remplissez pas les conditions qui étaient encore à ce moment-là peu connues. Mmh. Maintenant, on entend beaucoup la notion de fin de vie ou mort raisonnablement prévisible. À ce moment-là, on l'entendait plus ou moins, ce critère-là. Fait qu'on pensait qu'elle était pour pouvoir être acceptée, là.
Et qu'est-ce que votre mère, Louise Laplante, a décidé quand elle a compris que le système ne lui donnerait pas l'aide médicale à mourir?
Elle était très déçue, évidemment, parce qu'elle aurait voulu que ça se fasse chez elle, dans son pays, dans sa province.
Parce qu'elle le considérait là en Suisse, j'imagine.
Oui. Elle a fait l'adhésion, elle est devenue membre, elle était prête à faire le voyage.
Parce qu'on peut aller en Suisse et recevoir l'euthanasie.
Oui, avec certaines conditions à remplir, là, c'est-à-dire rédiger une biographie et puis remettre évidemment des papiers de médecin et tout ça. Elle était donc acceptée. Il nous restait juste à faire le voyage, mais comme vous l'aviez relaté dans vos articles en mars 2016, il y avait la notion de la maladie qui a vraiment agi en sa défaveur, finalement.
Oui.
Je perds mes mots, excusez-moi.
Oui, elle a perdu la course contre la montre, contre sa maladie.
Vraiment,
oui,
vraiment, vraiment. Donc, le voyage n'était plus envisageable à ce moment-là.
Okay.
C'était vraiment la solution. On a même regardé au niveau monétaire, parce que ça coûte 22 000 $ faire ce voyage-là. Mais bref, s'imaginer faire ce voyage-là était rendu impossible pour elle, vu son état qui était complètement pauvre.
Puis là, à ce moment-là, donc, le système au Québec, au Canada, ne peut pas lui donner l'aide médicale à mourir. Le voyage en Suisse... pour aller mourir en Suisse n'est plus possible. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'elle décide de faire?
Alors, comme c'était rendu presque dangereux d'habiter seule dans son condo à Longueuil, elle faisait des chutes, ratait ses transferts et puis avait peur la nuit parce qu'elle était seule. Nous autres, on faisait ce qu'on pouvait, on venait la visiter et tout ça. Elle avait aussi de l'aide des préposés qui venaient régulièrement dans la semaine, 2-3 fois par jour même, faire des changements de couches, par exemple, des trucs comme ça. Et on a demandé un transfert soit dans une ressource intermédiaire ou un CHSLD, mais vu son état vraiment de dépendance là, au niveau des transferts justement et des soins, c'était le CHSLD qui était recommandé pour elle. Évidemment, on se met sur une liste aussitôt qu'on rencontre une travailleuse sociale et tout ça pour faire les démarches. Et puis, quelques semaines plus tard, une place s'est libérée. Et puis, elle a accepté d'y aller en sachant très bien que ça allait être une étape super difficile pour elle à 66 ans de se retrouver dans un établissement comme ça.
Et elle voulait encore mourir.
Oui, oui.
Donc,
oui.
Elle a décidé de mourir comment?
Alors, comme s'alimenter reste considéré comme un soin dans les CHSLD, on peut refuser tous les soins dans un CHSLD parce que la personne est encore autonome. Elle y a longtemps pensé, puis comme elle avait déjà lu des histoires à ce sujet-là, elle a décidé d'arrêter de s'alimenter, donc de refuser la nourriture et l'eau ou à boire, tout simplement, pour pouvoir mettre fin à son calvaire, finalement, se libérer de sa prison qui était son corps. C'est la seule solution qu'elle avait trouvée. On y a longtemps pensé. On a pensé à toutes sortes de choses. Mais comme elle ne voulait pas impliquer personne d'autre qu'elle-même et qu'elle se rendait compte qu'elle était un peu seule, elle a décidé de faire cette bataille-là seule, avec notre accord, évidemment. On en a parlé longtemps. Alors, elle s'est laissée mourir de faim, finalement. Mais pas au CHSLD, parce qu'on entrait régulièrement dans sa chambre pour lui offrir à manger et à boire, parce que le message n'était pas totalement passé encore. Oui, avec les plats.
Donc, elle se laissait mourir de faim et on rentrait avec les plats fumants.
Oui. On nous a expliqué que le message, la note de sa décision n'avait pas été transmise à tout le monde. Puis avant que tout le personnel soit avisé dans leur rotation, ça allait être long et tout ça. Mais quand même, c'était impensable de pouvoir faire ce projet-là dans cet établissement-là.
Je suis en studio avec Léa Simard, dont la mère, Louise Laplante, en 2016, atteinte de sclérose en plaques. S'est vu refuser l'accès à l'aide médicale à mourir, a choisi de se laisser mourir de faim. Et si j'ai invité Léa Simard pour en parler, c'est pour vous montrer le côté inhumain des critères actuels de l'aide médicale à mourir qui ont été torpillés par une décision, là, heureusement, par une juge, la juge Beaudoin. Tout récemment, le gouvernement du Québec aujourd'hui a annoncé qu'on ne contesterait pas, qu'on ne porterait pas ce jugement-là en appel. Et cette mort-là, c'est une mort atroce, mourir de faim.
C'est ce qu'on dit. Peut-on vraiment le savoir?
Mais vous étiez là.
Oui.
C'est pas évident.
Non, ça a été. Ça s'est quand même fait rapidement. Je crois qu'on a été chanceuses, ma sœur jumelle et moi. En 4 jours, ça s'est fait. Elle est partie en 4 jours. On entendait des histoires qui ont duré 2-3 semaines. Donc, ça, je peux pas m'imaginer.
Parce qu'elle a arrêté de boire aussi, votre
Elle a arrêté de boire aussi. Je crois que ça a peut-être été plus rapide. Comme elle avait déjà commencé son projet au CHSLD, comme je vous disais, elle était déjà affaiblie beaucoup. Elle n'avait pas mis beaucoup de nourriture ni de liquide dans son corps. Fait que quand on l'a sortie de là, on l'a amenée chez ma sœur, lui installer un lit d'hôpital pour qu'elle puisse faire paisiblement son projet avec nous à son chevet. Ça a pris 4 jours et il a fallu se parler à maintes reprises, ma sœur et moi, pour se donner du courage l'une et l'autre. Parce que le vivre, être témoin de ça, passer à travers ça ensemble, c'était vraiment, comme vous l'avez dit, inhumain. C'est une mort, évidemment, qu'on ne souhaite à personne. Et malheureusement, il a fallu que des gens comme ma mère aient à passer par cette dure étape-là, cette dure mort-là, complètement indigne pour pouvoir éventuellement faire valoir le point que la loi n'était pas ajustée.
Puis j'ajouterais, il y a des gens comme vous, Léa Simard, votre sœur aimée, hein, c'est son
oui,
nom,
oui.
Hein, qui ont choisi d'en parler publiquement. Il y a d'autres proches aussi de gens comme ça qui ont choisi de mourir ou qui sont allés mourir en Suisse, qui ont choisi d'en parler publiquement. Mm-hmm. Et ça a montré à quel point c'était inhumain. Et écoutez, aujourd'hui, quand je vous ai écrit en pensant vous inviter, vous m'avez répondu, c'est une belle journée.
Oui.
Aujourd'hui, quand le gouvernement du Québec a décidé de ne pas porter la décision en appel, vous avez passé à votre mère.
Complètement. Je savais que c'était chaud. J'ai rencontré Maître Ménard là, pour un autre projet.
Jean-Pierre Ménard, oui.
Et puis, je savais qu'il allait avoir quelque chose qui allait se passer à ce sujet-là dans les prochaines semaines, dans les jours qui entouraient ce procès-là. Et puis, donc, je regardais régulièrement les nouvelles. Puis quand j'ai vu que ça sortait aujourd'hui, c'était vraiment un soulagement. Je l'annonçais à ma sœur aussi. C'est des grosses émotions, c'est sûr, parce que c'est presque une bataille, en fait, qui est gagnée à quelque part. C'est-à-dire que ça a valu la peine qu'il y ait des gens qui montent aux barricades et puis qui fassent valoir ce point-là. Oui, il y a des gens qui ont souffert terriblement, mais à quelque part, je pense que c'est ça l'évolution des choses en général. Évidemment, il y a toujours des gens qui souffrent ou qui doivent piler un peu sur eux pour pouvoir éventuellement faire jaillir la lumière ou jaillir de meilleures décisions par la suite.
Il y a quand même un flou à Ottawa présentement parce que le gouvernement fédéral a jusqu'à dans quelques jours pour décider d'interjeter appel ou non, mais il y a une campagne électorale. Donc, c'est pas clair. Là. Si Justin Trudeau est réélu, il l'a dit, il va pas contester la loi. M. Scheer, lui, laisse entendre qu'il pourrait la contester. Vous, Léa Simard, vous avez vu votre mère mourir de faim, choisir de mourir de faim parce qu'elle voulait sortir de la prison qui était son corps, parce qu'elle n'avait pas accès à l'aide médicale à mourir. Avez-vous un message pour Andrew Scheer?
Oh là là! mon Dieu, qu'est-ce que ça pourrait être mon message? En rencontrant ces humains-là, en lisant les histoires de ces humains-là, je pense que nécessairement, on ne peut pas ne pas être touché. C'est d'aller du côté de la sensibilité, mais aussi de la raison. C'est pas juste une question d'émotion, c'est aussi... et pourquoi pas, si on décide qu'on en a terminé, parce qu'on souffre trop, si on voit que la personne est lucide, elle est prête à redonner son consentement d'une fois à l'autre, c'est-à-dire qu'elle répond à tous les critères, sauf au fait que sa mort n'est pas raisonnablement prévisible ou qu'elle n'est pas en fin de vie. Je pense qu'on peut, logiquement, avec notre raison, comprendre que la souffrance, à un moment donné, et la qualité de vie et la dignité, on n'en a pas parlé, mais vraiment, c'est une question de dignité, de pouvoir choisir de mourir dignement. Est-ce qu'on ne veut pas tous un peu ça, nous, les humains sur Terre?
Excellente observation. Merci, Léa Simard.
Merci à vous.
On va vous réinviter. Je sais que vous travaillez sur une pièce de théâtre sur ces enjeux-là. Mais quand ce sera prêt, vous nous ferez signe.
Avec plaisir.
Saluez votre sœur aimée pour nous. Léa Simard est la fille, une des deux filles de Louise Laplante, atteinte de sclérose en plaques, qui s'est laissée mourir de faim en 2016 parce qu'elle n'avait pas accès à l'aide médicale à mourir. Il est 16h22.